Eh bien, poursuivons en direct du couvent des Carmes à Beauvoir-en-Royans à l'occasion de ce moment très instructif en route vers l'avenir de Le Futur de Demain, une table ronde qui mêle scientifique et notre grand Manitou qui Manitou, le micro et puis tout ce qui tourne autour. Bastien.
Oui, bonjour, rebonjour à tous. On vient d'écouter donc La Chienli, hein, qui est le groupe de mon camarade qui est absent, on ne sait pas trop où il est d'ailleurs, c'est un peu dommage, Kobe, qui n'est pas là et qu'on cherche depuis maintenant 2 à 3 jours, et qui n'est pas là. Donc du coup je me dois de dire, de clamer et de... rendre ces textes audibles aux plus nombreux, c'est que je suis un peu comme un poète des temps modernes et qui essaye de dire au monde que Kobe est un auteur à écouter, à entendre et à venir voir. Donc justement, un texte que j'aimerais vous lire, une spéciale dédicace à Anne-Lise. C'est pour toi, Anne-Lise, toi qui travailles sur les... sur les bovins ou sur les ovins, ça s'appelle Mort aux vaches.
J'ai hâte de voir ça.
C'est dû à notre.
Alors j'attends le son parce qu'il me faut un peu de musicalité pour dire ce texte.
Ah ça y est.
C'est parti. La vache, la vache. À n'en point douter, est l'ennemi juré de l'humanité. Son regard veule. Est suffisant, est éloquent. Sa prédisposition à se rouler dans son propre caca écœure même le bouquetin. Les enfants en ont peur et ses sabots ne font même pas de bons cendriers. Mais si ce n'était que ça, passe encore. Mais la vache met en péril l'existence même de nombreux humains. En effet, pour avoir une vache, il faut la nourrir. Or, pour nourrir une vache sur une année, il faut un certain nombre de mètres carrés de pâturage. C'est une estimation la louche qui n'engage que moi. Cette surface ne sera utile qu'à la vache en question. Et à quoi sert cette vache qui ingurgite tant de bon fourrage sur l'année, hein ? À deux choses. Produire du lait et des steaks hachés. Encore que la vache ne produit pas les steaks hachés, hein, faut en plus se farcir le boulot de hachage. Toutes ces bonnes choses extraites de la vache sont-elles pour autant rentables? Sachant que la surface agricole destinée à la vache pourrait servir à faire pousser du riz ou du blé en quantité suffisante pour nourrir une centaine d'humains affamés, on est en droit de se poser la question. Merde! Entre 10 kilos de calendos qui servent à entretenir le cholestérol de 5 ou 6 personnes et la production d'assez de céréales pour nourrir une petite ville, le choix devrait être aisé. Et les steaks hachés, me direz-vous. Hein, les steaks hachés. Comment qu'on ferait des steaks hachés sans vache? Surtout que les céréales à tous les repas, merci bien. Je vous reconnais bien là, hein, chers auditeurs. Aucune confiance en la science, bande d'obscurantistes moyenâgeux. Interrogeons-nous un instant, vous. Qu'est-ce qu'un steak haché, finalement? Sinon, un muscle qui se développe autour d'un os grâce à des stimulations d'ordre électrique et un apport de carbone. Hein ? Cette production est donc parfaitement réalisable en laboratoire, sans fourrage, ni effort, à la manière du célèbre sport élec. Sans compter que cette méthode présente l'avantage d'éliminer tous les morceaux inutiles de la vache d'autrefois. Sabots, cornes, poils, yeux, etc. La démonstration est donc faite que la vache est non seulement inutile, mais également préjudiciable à notre si gentille espèce. Un texte de Kobe qui n'est malheureusement pas là.
Oui, Kobe, on se pose toujours la question. Poursuivons, si vous le voulez bien, Bastien, avec nos invités, puis naturellement aussi le public qui passera peut-être sous le micro de Maëlys, ici présente. Et on parle également d'autres réactions que nous avons pu capter au préalable de cette table ronde organisée, on le rappelle, par l'UGA. C'est quand même important de le préciser. L'UGA, l'INRAE, le LABEXITEM et l'OSUG.
Et l'OSUG,
voilà. Alors, il va falloir expliquer peut-être un peu tous ces acronymes aussi. L'UGA, bon.
Alors, moi, je vais dire des conneries, donc il faut mieux
l'univers. Oui. Donc, il faut juste développer les acronymes, c'est ça? Alors, le principal, effectivement, c'est l'Université Grenoble-Alpes, qui est la bannière qui nous réunit tous. chacun dans nos différents labos et puis en lien avec des institutions qui permettent de faire des travaux entre les différents laboratoires et d'animer un petit peu ce petit monde de la recherche. Donc effectivement, l'INRAE et le LESEM au sein de l'INRAE plus particulièrement, donc le laboratoire des écosystèmes et sociétés en montagne au sein de l'Institut National de la Recherche pour l'Alimentation et l'Environnement ont contribué à la mise en place de ce dispositif, mais effectivement quand on fait de la recherche on ne le fait pas tout seul et c'est un exercice qui est extrêmement collectif et donc on est accompagné par deux LABEC, donc des laboratoires d'excellence qui contribuent à financer des dispositifs de recherche au sein de l'Université de Grenoble. Donc le LABEX ITEM qui travaille sur la transition des territoires en montagne et le LABEX OSUG qui est la continuité de l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble.
Merci beaucoup François pour toutes ces précisions.
Et tout ça sans carnet. Hein.
Et sans carnet, hein, oui, tout ça.
C'est un métier. Hein.
Ouais, c'est incroyable.
Enfiler des acronymes, on fait ça tous les jours. Moi j'en fais des copies entières, j'arrive à m'exprimer de manière à ce que personne ne me comprenne, uniquement grâce à des mots qui ne veulent rien dire, car composés uniquement d'initiales. Hein, c'est un exercice de style. Nous aussi on est des artistes dans notre genre, il ne faut jamais l'oublier.
Sûr. Et moi j'ai hâte que vous montez le labo, le SGEG qui serait très drôle, la zone.
Il y a le Elvis déjà qui existe à Lyon, qui fait de la sociologie. J'avais réussi à monter un projet de recherche qui s'appelait CCCCP. Mais je suis pas allé plus loin dans les trucs qui se prononçaient quoi.
En tout cas, on est toujours en direct du CDC. C'est pas la Cour des comptes, hein, c'est le couvent des Carmes.
Oui. Oh, c'est beau.
Et donc place au micro trottoir pour des réactions à chaud, Bastien.
Oui. On y va. C'est parti.
Surtout hein, sur la pollution, sur comment on avance, la technologie, dans tout. Ça me fait peur le changement de temps, il fait très chaud, des fois il fait très froid, et ça c'est dû à notre mode de vie en fait. Mmh. Il y a la société qui impose beaucoup de choses, et ben les gens ils n'ont pas le choix. Il y en a, ils essayent de changer les choses, mais ils n'y arriveront pas parce que c'est une minorité pour moi.
Mmh. Donc qu'ils nous tiennent au courant, c'est très important, sauf pour certains. Sauf pour les cons qui, contrairement à nous, diront bon, il n'y a pour rien le réchauffement climatique, comme. Mais qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ça, oh hein? Et puis après, ils vont te dire mais qu'est-ce que tu veux y faire? T'es trop con, t'es comme moi que t'es. Mais non, justement. Ceci. Si on se mettait tous ensemble, ça va rejoindre une autre pensée que j'ai, mais bon, ça serait trop long. Si on se mettait tous ensemble et qu'on travaille, qu'on pilonne un peu partout, peut-être qu'on trouverait, j'en sais rien. Moi, je vois pas. Dans les médias, je vois pas.
On a tous une conscience quand même. On est tous terrifiés quoi par le manque d'eau. Donc je pense qu'effectivement, on le fera tous. On tirera la chasse plus que deux fois par jour. On prendra des douches moins longues ou moins souvent, etc. Mais malheureusement, ça servira à rien. Parce que malheureusement, ça représente très peu l'eau potable consommée par les personnes par rapport à la quantité d'eau consommée par les centrales nucléaires, l'industrie, l'agriculture, les canaux, des choses comme ça.
Très peu d'eau potable, alors ça c'est une question aussi, peut donc aussi bien se diriger vers des réactions par rapport à ce qui a été exprimé déjà par les personnes, s'il y a des choses qui vous interpellent, enfin vous souhaiteriez réagir.
Ouais, déjà au niveau des chiffres en fait, bon alors du coup j'avais préparé un tout petit peu l'émission, mais hier j'avais noté des chiffres.
On rappelle que Juliette est hydrostatisticienne.
Voilà, donc les chiffres à la
pluie. Elle aime bien les chiffres.
Voilà.
Ah oui, moi quand je parle c'est avec des chiffres, sinon je crois pas. Hein. Donc en fait, sur toute la consommation à l'échelle de la métropole, donc la consommation d'eau, il y a 58% de l'eau qui est consommée par le secteur agricole. L'eau potable, ça représente 26%, le refroidissement des centrales 12% et l'industrie, entre guillemets, que 5%. Voilà. Donc pour remettre en place, effectivement, le plus gros consommateur d'eau, c'est effectivement le secteur agricole. Elle va compléter.
Anis, défend tes bovins. Parce que...
Alors, non, je suis pas là pour défendre les bovins.
Ovin.
Et je travaille sur les moutons.
Oui, pardon.
Comme ce midi, quoi, ovin.
Oui, alors le secteur agricole, déjà sur les chiffres, je pense que le secteur agricole est un peu élargi au niveau des chiffres et il doit sans doute inclure aussi les frais de transport, enfin les consommations en termes de transport pour faire venir et pour exporter les produits de l'exploitation. Donc si on sort déjà le transport, je pense que le secteur agricole descendrait pas mal. Ensuite, le secteur agricole, je pense qu'il aurait, tout intérêt aussi à chercher à limiter les consommations d'eau. Donc ça, ça serait en essayant de revisiter un petit peu les systèmes, les stratégies d'adaptation des systèmes vis-à-vis de l'eau et vis-à-vis de différents types d'énergie. Et essayer de reconcevoir des systèmes en limitant certaines cultures qui sont très consommatrices d'eau et de carburant, mais notamment d'eau, comme le maïs par exemple, donc le maïs pour l'élevage. On est encore très producteur de maïs dans la région de l'Isère, dans le département et puis dans la région. Tout ça pour pourquoi ? Parce que les terres, elles sont fertiles, les terres, elles sont très proches du fleuve de l'Isère, donc c'est très pratique. Et les éleveurs disent, ben, ce sont des terres à maïs, on ne peut faire que ça. Et j'ai vraiment déjà entendu ça, on ne peut faire que ça. Mais non, on ne peut pas faire que ça. On peut faire plein d'autres choses, on peut faire du maraîchage, on peut faire beaucoup de prairies, et voilà, un secteur qui serait beaucoup moins gourmand en eau et qu'on pourrait du coup utiliser pour autre chose.
Et justement, est-ce que le système d'agriculture pastorale, est-ce que du coup il est moins consommateur en eau que d'autres systèmes d'agriculture ? Est-ce que le fait que les pâturages ne sont pas aussi un exemple dans nos belles montagnes, en basse moyenne montagne, aussi un exemple d'agriculture raisonnée, ou on est encore aussi dans des proportions trop grandes, ou est-ce qu'il... Voilà.
Alors c'est vrai que le secteur pastoral sort complètement de ces chiffres-là. Ouais. Le secteur pastoral est généralement et majoritairement extensif, en tout cas dans les Alpes. Le fait de transhumer et d'emmener les moutons en alpage, donc les moutons auront toujours besoin d'eau, ils ont besoin d'à peu près 2 litres d'eau par mouton et par jour.
Ah quand même, hein.
Eh bien, ça reste très peu, sachant que la plupart des moutons s'en sortent très bien avec la rosée.
Ouais, c'est ça. Ah.
En plein été, ils ont quand même besoin d'abreuvoirs, de citernes, ils ont vraiment besoin d'eau en été. Surtout du fait d'une matière sèche, justement très sèche, avec de l'herbe qui jaunit en alpage. Donc là, ils ont besoin d'eau en plus. Mais sinon, généralement, ils s'en sortent plutôt bien. Mmh. Donc c'est un secteur qui n'est pas gourmand en eau, dans le sens... ou si ce n'est pas un élevage laitier. Donc là, pour les laitiers, on est encore dans d'autres proportions, dans d'autres chiffres, du fait du lavage des traites, des installations de traites, etc. Mais en tout cas, pour l'élevage ovin et bovin dans une autre mesure, mais pour l'élevage ovin, c'est quelque chose qui est très résilient, un peu gourmand en eau. Un élevage extensif, un élevage qui permet de maintenir une biodiversité floristique, qui permet de maintenir un patrimoine et qui permet de maintenir les paysages tels qu'on les a actuellement en alpage.
Et je vais peut-être poser une question qui fâche à mon collègue à ma gauche. Et du coup, l'enneigement, alors les stations de ski, est-ce que du fait de l'augmentation de la neige artificielle, est-ce qu'elles sont consommatrices en eau et est-ce qu'elles ne devraient pas revoir aussi le système ? Est-ce que c'est très gourmand de consommer en eau en station pour de la neige artificielle ?
Ah, là, tu as mis le doigt sur quelque chose.
Ah bah hein. Oui, j'ai bossé mon émission, contrairement à certains.
Par exemple, moi, c'est ça. La question de l'eau pour l'enneigement des pistes de ski, la production de neige, c'est une question qui se pose effectivement dans les territoires de montagne, puisque à un moment donné, on va effectivement mobiliser une partie de la ressource pour un usage spécifique qui ne relève ni de l'alimentation, ni de l'adduction d'eau potable, et donc potentiellement priver un certain nombre d'activités de cette ressource quand elle pourrait en avoir besoin. Donc c'est une question qui est largement ouverte. Alors, est-ce qu'il faut parler de consommation d'eau ou de prélèvement sur la ressource en eau ? C'est une autre question, puisque forcément, cette eau, elle est effectivement utilisée pour produire de la neige, et donc elle va rester globalement à l'endroit où elle est utilisée, si ce n'est quelques pertes qu'on peut estimer sur l'évaporation, hein, qu'on estime aujourd'hui autour de 10% de l'eau qui est mobilisée pour la production de neige, puisque la majeure partie de l'eau qui est perdue pour l'activité ski, c'est une eau qui tombe sous forme de cristaux, de glace, mais en dehors des pistes. Et donc c'est pour ça que en fait on a besoin de bourrir beaucoup plus de neige que ce qu'on va retrouver concrètement sur les pistes, mais globalement on reste dans un périmètre qui est relativement bien déterminé. Et puis bon, bah, cette eau forcément, comme le fait la neige à l'état naturel, hein, elle va fondre au printemps et alimenter les sous-sols, alimenter les cours d'eau et donc rentrer dans le cycle de l'eau peu ou prou naturel. Donc la question c'est vraiment celle du prélèvement. Donc à quel moment on prélève de l'eau, est-ce qu'on la stocke ou pas dans des retenues, est-ce qu'on prélève directement dans le milieu naturel, dans la période hivernale où là effectivement on est à l'étiage, donc c'est là où il y a le moins de ressources disponibles, c'est le moment où les cours d'eau sont à leur niveau le plus bas dans leur dynamique annuelle, et où effectivement, mais ça, d'habitude c'est plutôt en été, en plein air, en montagne c'est un petit peu particulier, c'est plutôt en hiver parce que c'est stocké sous forme de glace. Mais bon, en même temps, les quantités de neige qu'on va produire, si elles correspondent à une captation d'une certaine quantité de l'eau qu'on est capable de capter, donc c'est là où ça va poser problème pour d'autres usages, elles restent relativement marginales par rapport à l'ensemble des cycles naturels, notamment des précipitations qu'il peut avoir. Donc à la fois, ça a un impact limité en termes de cycle naturel. L'impact d'une station de sport d'hiver, on peut sans doute le voir ailleurs, hein, notamment sur tout ce qui est des travaux d'été, le terrassement, l'ensemble de la construction immobilière et de ce que ça implique aussi en termes de surconsommation d'eau par les touristes de manière ponctuelle pendant la saison. Et puis si on continue à tirer le fil, on peut aller jusqu'aux émissions de gaz à effet de serre qui sont émis par les déplacements touristiques. Mais fondamentalement, ça reste relativement marginal par rapport à ce qu'on connaît à l'état naturel. Et de la même manière, comme il y a certains qui revendiquent le fait de faire de la neige pour quand il n'y en aura plus, bah c'est un peu pareil, c'est pas les mêmes proportions, quoi. Mmh. On ne compensera pas non plus avec l'enneigement artificiel la dynamique naturelle de l'enneigement.
Alors, dans 2-3 semaines, une petite fille qui va naître, et du coup, elle va me poser des questions à un moment donné. Elle va me dire, bon, papa, si on va au ski, est-ce que si on skie et qu'on va en montagne, est-ce qu'on augmente, nous, le réchauffement climatique ? Par exemple, qu'est-ce que je lui dis, moi, ma fille, du coup. Attention, elle a 3 ans. Hein.
Bah, tu lui dis oui, et puis si elle est traumatisée, elle ira pas au ski et c'est pareil, quoi. D'accord. Elle en mourra pas.
Oh la vache.
Après, c'est la question aussi, est-ce qu'on a envie de faire profiter de sa petite-fille du ski alors qu'on sait pertinemment que peut-être ce sera un modèle qui se terminera prochainement. Alors, une question de Maëlys.
Ah oui, on voit Maëlys qui est à 30 mètres de nous.
Oui, bonjour, je suis oui. au bout de la cour.
Au bout de la cour. Alors, vas-y Maëlys.
Je suis juste à côté d'un petit parcours initiatique pieds nus. Donc est-ce que ce cher petit enfant peut refaire le parcours pour nous ? Est-ce que ça t'intéresse ? Comme ça, on écoute tes petits pas dans la mousse. Bon, trop timide, n'empêche que j'ai une question
oui.
pour la dame qui s'occupe de ce parcours initiatique. Donc je vous laisse d'abord vous présenter, dire votre prénom et qu'est-ce que vous faites ici.
Oui, bonjour, Chloé. Mon entreprise, c'est Naturellement Botanique et j'essaie de parler des végétaux aux plus petits et aux plus grands.
Super, ça a l'air de fonctionner. Il a fait le parcours, je dis. Hein. Le petit
super.
A fait le parcours, mais il n'a pas voulu le refaire pour nous. J'ai une petite question sur la thématique d'aujourd'hui par rapport au réchauffement climatique. Est-ce que vous observez dans votre métier ou dans ce que vous faites au quotidien des changements dans votre quotidien à cause du changement climatique ?
Je vois que faire le potager, bah, ça devient de plus en plus compliqué. Il faut avoir des réserves d'eau de pluie à la maison. Il y a les restrictions d'eau. De plus en plus, on a une migration des espèces en altitude. Donc, tous les 10 ans, les espèces prennent à peu près 20 mètres. Donc, j'ai essayé de représenter une petite coupe Vercors-Chambaran avec un jeu interactif pour que les gens mettent les espèces actuelles en 2023 et se posent la question, mais en 2100, qu'est-ce que sera nos paysages ? Voilà.
Ok, super. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment vous communiquez du coup avec les plus jeunes, comment vous les sensibilisez sur cette question-là ?
Ça m'intéresse.
Ben,
hein.
J'ai amené des potées de plantes qui sont adaptées aux pays méditerranéens et aux pays désertiques, comme des cactus ou des plantes aromatiques. J'ai mis quelques grands thèmes, quelques grandes ruses, comme être à contre-saison, faire le dos rond, se parfumer. Et là, en expliquant les différentes plantes, les enfants et les adultes peuvent remettre les icônes des plantes au bon endroit.
Ça m'a l'air, ma foi, super. Si vous voulez faire un petit tour là-bas de l'autre côté de la cour, Maëlys, vous viendrez de l'autre bout de la cour.
Et on voit la qualité de la technique qu'on a ici. C'est qu'on est à 25 mètres et ça arrive à grésiller. C'est incroyable. C'est fou la technologie. C'est incroyable. Un BR2, si tu nous vois. Un BR, c'est pas de notre faute. C'est la technique de Radio Royan. Alors,
on fait une émission low-tech. Hein.
En tout cas, Maëlys, tu as retenu que le mouton se porte bien. Anne-Lise nous a dit ça, qu'il doit boire 2 litres d'eau par jour et qu'avec la rosée du matin, il s'en sort. Voilà.
Eh ben, je n'y manque pas.
Ok. Est-ce que vous avez, vous, quelques réactions par rapport à ce qu'on a entendu ou autre chose à dire par rapport au potager, par rapport aux restrictions d'eau? Parce qu'on entendait tout à l'heure quelqu'un qui disait bah, on va peut-être tirer la chasse deux fois par jour. Est-ce que faut inciter et dire aux consommateurs et dire oh là, il faut se restreindre en eau? Qu'est-ce qu'on fait? Et pensez à ma petite fille qui a 3 ans et qui toujours est limitée puisque je suis son père.
Ouais. Alors c'est vrai que depuis un mois, là, l'Isère, en tout cas une partie de l'Isère en niveau 1 des restrictions sécheresse, et en fait depuis une semaine même niveau 2 dans certains endroits de Nord-Isère. Là en fait, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la pluviométrie depuis un an? En fait, pratiquement partout en France, sauf en Bretagne, on va dire, on a un déficit pluviométrique, et notamment dans les Alpes du Sud, par exemple, tous les mois sont en déficit pluviométrique. Il faut bien comprendre, ce déficit pluviométrique, il s'accumule. C'est-à-dire que même si le mois prochain ou ce mois-ci va être normal, eh ben, ça ne rattrape pas tout ce qu'on a en moins d'avant. Donc en fait, pour revenir à un équilibre, là, il nous faudrait vraiment des mois et des mois qui sont excédentaires. Donc, en pratique, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en gros, moi j'aime bien avoir une image un peu d'une baignoire. Vous voyez, la pluviométrie, ce serait un peu le robinet, l'eau qui coule.
Ouais.
Le bouchon est sorti là, donc il y a aussi de l'eau qui s'écoule. Ça, c'est ce qu'on prend. Et en fait, eh ben, le robinet il coule beaucoup moins fort qu'avant et nous, on prend toujours autant. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les nappes, elles te vident. Elles sont pas vides, hein, mais elles diminuent. Donc, j'ai envie de dire, il y en a qui me posent la question, mais alors est-ce que cet été on va être en état de sécheresse, etc. En fait, tout dépendra de combien il va pleuvoir ces mois prochains. Et je ne peux pas vous dire exactement combien il va pleuvoir, mais toujours est-il que pour être en état normal, il faudrait vraiment, vraiment, vraiment qu'il pleuve énormément les mois prochains.
D'accord. Voilà. Est-ce que tu crois à des danses chamaniques pour faire tomber la pluie? Est-ce que tu penses que si on se fait tous une danse avec nos 28 auditeurs et le public et qu'on invoque la pluie, est-ce que tu y crois à ça?
Bon. Alors moi j'ai pas tellement envie qu'il pleuve,
t'es pas obligé de répondre à mes âneries.
Ensuite je vais revenir en vélo. Mais par contre, je dois quand même vous dire, il y a des gens qui font des études pour savoir, notamment quand il y avait les Jeux Olympiques en Chine, ils voulaient pas qu'il y ait d'orage pendant la cérémonie d'ouverture, donc ils avaient plus ou moins essayé de développer des sortes de mini-fusées qu'ils envoyaient dans le ciel pour faire pleuvoir avant. Voilà, il y a des sortes de recherches comme ça. Je peux vous dire qu'on n'est pas du tout encore capable de pouvoir gérer nous-mêmes tous les événements de précipitation et de manière générale le climat.
Ouais. D'accord.
Et heureusement.
Donc, tu conseilles pas les dents chamaniques
Bon, ça, j'ai jamais essayé. On peut essayer, ça vous dit. Hein,
ouais.
Il y a eu une petite procession religieuse dans la région de Perpignan justement pour faire appel à la pluie.
Ouais.
Comme quoi,
on s'en remet facilement à l'au-delà pour.
Vous voyez, quand on n'a plus le choix. Hein.
Je me retourne pour essayer d'appeler Kobe. Parce qu'on a toujours pas de nouvelles de lui. Et ça m'inquiète un peu, parce que l'événement a quand même commencé depuis hier. Il est toujours pas là. Au moins qu'il passe, quoi. Donc, du coup, je vais essayer de l'appeler devant vos yeux ébahis et devant vos oreilles à l'écoute. On essaie de l'appeler à la technique, c'est possible?
Ouais, sans problème.
Et c'est parti. Ah, ça sonne déjà. Il y a peut-être répondu.
Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Kobe, je ne suis pas là pour l'instant, mais Bastien, pour tout ce qui concerne l'événement au couvent des Carmes, là, alors sache que j'arrive, hein, j'ai eu un petit contretemps, mais j'arrive là, je suis en route, m'attendez pas, j'arrive. Ah, si tu vois le directeur de l'INRAE, là, tu lui dis bien que il y a plein de trucs là dans l'expo, c'est pas de moi. Il y a des trucs que je valide pas. Hein. Voilà. Bisous, hein, à tout, j'arrive.
Eh ben, c'est super. En tout cas, j'entends qu'il assume pas certaines choses. Alors, du coup, on verra les questions qu'on pose par rapport aux financeurs, surtout sur la demoiselle qui suce des fraises en décembre. Il va falloir que je trouve des explications. Bon, bah, je vais essayer de le rappeler durant le direct. On va voir s'il peut nous répondre. Voilà. En tout cas, j'espère qu'il nous écoute.
On poursuit. Alors peut-être, je ne sais pas si Maëlys fait quelqu'un sous la main pour une question, ou sinon on poursuit en musique, on fait une petite respiration. S'il y a quelqu'un qui spontanément souhaiterait poser une question au chercheur ici présent, ne pas hésiter, hein, c'est le moment ou jamais.
Alors, je suis en direct avec Flipper le dauphin, croyez-le ou croyez-le pas. Maintenant, elle n'a pas de choix, maintenant que je suis là. Donc, Flipper le dauphin, est-ce que tu as une réaction à faire par rapport à ce qu'on dit les chercheurs ? J'ai la traductrice officielle de Flipper le dauphin juste à côté, donc on va pouvoir tout comprendre.
Je suis très content d'être là.
Est-ce que tu pourrais réagir par rapport à ce qu'on dit les chercheurs juste à côté ?
J'écoutais pas vraiment, j'étais en train de bouffer du poisson.
Alors, c'est super que tu bouffes du poisson, mais alors déjà, le poisson, il est un peu loin, ici, dans cette région. Est-ce que tu as mangé un peu de fromage ?
Non, moi, je me suis fait un petit tupperware, et le fromage, je digère très mal.
C'est super bien joué, en tout cas.
Ça se comprend.
Un jeu d'acteur, moi, j'étais devant Olivier Py, moi, alors là... C'est incroyable. Elle peut nous redire quelque chose pour nous dire au revoir ? Le Flipper peut nous...
Alors, vas-y. Est-ce que Flipper, tu peux nous dire au revoir ? Je répète la question parce que tu es trop loin de Bastien pour l'entendre. Alors, on s'est pris un vent par Flipper le dauphin. Flipper le dauphin est revenu, donc on va lui reposer.
J'ai pas bien compris, là. Faut qu'elle répète.
Ok, toujours aussi bien joué de la part de Flipper.
Voilà, je n'avais pas mieux.
Merci Maëlys, merci, très bien. Et puis vous pouvez retrouver Flipper au couvent des Carmes, puisqu'il est parmi nous, dans l'épisode 1 radiophonique qui est dans la chapelle, pour écouter son interview en exclusivité, où là je vous jure c'est mieux joué. Voilà, et, en tout cas même on pourra y passer un petit extrait tout à l'heure de cette interview de Flipper.